Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église ouverte en Eure-et-Loir. Nous allons vous présenter les 6 églises du secteur de Courville qui feront l'objet de la sortie annuelle de notre association le 16 septembre. Pour cela, j'ai invité M. Charles Jaubert, amateur très éclairé en patrimoine et en particulier du patrimoine religieux. M. Jaubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également président de notre association Église ouverte en Eure-et-Loir et je suis heureuse aussi de vous accueillir à ce titre. Comme tous les ans, nous proposons une visite à nos membres qui sont pour la plupart des veilleurs dévoués dans nos églises et qui sont avides de connaître les différents sites religieux de notre diocèse. Alors cette sortie du 16 septembre, Monsieur Jaubert, quel en est le thème cette année ?
Eh bien, nous avons choisi de parler de Saint-Martin. Pourquoi Saint-Martin ? Parce que tout simplement, nous fêtons cette année le 1700e anniversaire de sa naissance. Il serait né en 316, en Pannonie, c'est dans une province de l'actuelle Hongrie. Et cet homme qui est venu de Hongrie, eh bien, a évangélisé une grande partie de la Gaule de l'époque, parce que la Gaule était évangélisée surtout dans les parties urbaines, c'est-à-dire dans les cités. Et il a été véritablement l'apôtre des campagnes, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait une mission extrêmement importante à partir de l'évêché de Tours, puisqu'il est devenu archevêque, enfin évêque de Tours, parce qu'à l'époque, c'était un évêque et non un archevêque. Et il a fait ce qu'on pourrait appeler effectivement des visites pastorales qui ont été des véritables visites d'évangélisation pour toutes les campagnes environnantes. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous en reparlerons plus tard, un grand nombre d'églises portent son vocable dans toute la région d'Indre-et-Loire, du Loiret, du Loiret-Cher, de l'Eure-et-Loire jusqu'à Paris bien sûr.
Alors c'est dans le secteur de Courville que nous nous rendons cette année. Monsieur Jaubert, vous connaissez très bien tout le patrimoine religieux, les églises, les statues, les vitraux, les objets liturgiques. Alors, faites-nous vibrer à l'évocation de ces richesses patrimoniales et spirituelles. Alors, on commence par Favière ?
Alors, on commencera effectivement par Favière. Alors, évidemment, nous avons essayé de choisir autant que faire se peut des églises dont le vocable est Saint-Martin. Alors, il y aura à ce principe une seule exception, ce sera Courville en l'occurrence. Mais toutes les autres églises de notre parcours ont pour patron Saint-Martin. C'est le cas donc de Favière. Favière est une toute petite localité qui est située non loin de Châteauneuf-en-Thymerais et qui dépend d'ailleurs de la paroisse de Saint-François-Laval. Et cette petite église, qui est fort bien tenue d'ailleurs, va nous intéresser en ce qui concerne Saint-Martin, car elle possède deux pièces, deux éléments qui ont un rapport avec l'apôtre des Gaules. Tout d'abord, il y a un autel qui renferme un grand tableau. Alors c'est un tableau relativement récent puisqu'il date de 1863, ce tableau. Mais alors il illustre un épisode de la vie de Martin qui est relativement peu représenté dans l'iconographie généralement. Il représente en l'occurrence la chute des idoles. Alors on disait effectivement que bien entendu Martin était évangélisateur, il devait d'une certaine manière combattre le paganisme. Et le paganisme était représenté par des cultes à certaines idoles, des cultes celtiques très souvent. Et alors, évidemment, la légende raconte que lorsqu'il se déplaçait, eh bien, de par simplement sa présence et par ses prières et par ses bénédictions, les statues des idoles s'écroulaient devant lui. C'est donc l'image, en quelque sorte, du remplacement du paganisme par le christianisme. Alors, c'est ce que représente ce tableau de 1863, qui n'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais je trouve qu'il est très très intéressant parce qu'il est iconographiquement relativement rare. Et nous aurons également dans cette église une grande statue polychrome qui représente Saint-Martin, qui est une statue d'ailleurs assez considérable par sa grandeur, polychrome, c'est-à-dire évidemment qui a gardé ses couleurs d'origine et qui fait pendant d'ailleurs à un autre saint, Saint-Sébastien, qui était particulièrement vénéré autrefois, puisque vous savez qu'on invoquait Saint-Sébastien contre la peste. Donc c'est un saint guérisseur qu'on rencontre très souvent dans nos églises rurales. Voilà l'essentiel. Alors, il y a également des reliquaires dans cette église. On peut penser que parmi ces reliquaires, certains conserveraient des restes de Saint-Martin. Il faudrait les examiner de plus près. Là, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que vous savez, évidemment, dans les reliquaires, il y a toujours un sceau qui est apposé par l'évêque du lieu, qui garantit l'authenticité de la relique. Et il y a à côté un petit papier indiquant le saint dont il s'agit. Voilà, donc on verra cette première église qui comporte un certain nombre d'autres œuvres intéressantes, dont un bâton de confrérie du XVIIIe siècle, qui est évidemment un objet très intéressant dans nos églises.
Alors après Favière, nous entrerons dans l'église de Fontaine-l'Aiguillon, église très riche également.
Alors Fontaine-l'Aiguillon, c'est une église riche parce que si on se réfère à la fameuse base Palissy, qui est, comme vous le savez, la base du ministère des Affaires culturelles qui recense tous les objets classés ou inventoriés comme monument historique ou comme objet historique, la Fontaine-l'Aiguillon ne comporte pas moins de 16 objets qui sont inscrits au titre des monuments historiques. 16 objets, ce qui montre évidemment la richesse, en effet, de cette église. Alors, il y a quelque chose de particulier dans cette église, c'est qu'en fait, elle a un double vocable. On a parlé de Saint-Martin, bien entendu, mais elle est également sous le vocable de Saint-Gorgon, qui est un saint, alors, évidemment, typiquement percheron, du diocèse de Chartres, plus particulièrement. Et il y a dans cette église une œuvre tout à fait exceptionnelle et tout à fait rare. C'est une statuette de Saint Gorgon qui est en carton et en plâtre peint, qui date du XVIIe siècle et qui est en quelque sorte située dans une espèce de reliquaire en bois. Alors, il y avait autrefois une tradition qui voulait qu'on vienne en pèlerinage à Saint Gorgon et que l'on passe sous cette espèce de reliquaire. Alors, le reliquaire est surélevé, il y a quelques marches. Ensuite, on peut évidemment passer en dessous le reliquaire, circuler en dessous et remonter de l'autre côté. Alors ça, c'est une curiosité, effectivement, dans le culte même, si vous voulez, des saints. Et la présence de cette petite statuette en bois peint et en plâtre du XVIIe est aussi une très grande rareté. Donc je pense que ça sera peut-être le point le plus intéressant de notre visite. Mais il ne faut pas oublier, bien entendu, qu'il y a quand même là des représentations de Saint-Martin. Et en particulier, nous avons un petit tableau vraiment très très petit qui date du XIXe siècle, qui a été inscrit à l'inventaire supplémentaire et qui représente la fameuse charité de Saint-Martin. Alors ça, évidemment, c'est l'épisode le plus fréquemment représenté. Iconographiquement parlant, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans nos églises, bien entendu, c'est-à-dire le fameux partage du manteau de Saint-Martin destiné à un pauvre mendiant grelottant de froid.
Alors, nous poursuivons notre visite. Après Fontaine-l'Aiguillon, nous voici à Courville.
Alors, Courville, évidemment, c'est la grande église de ce secteur. Alors, bien que, évidemment, elle ne soit pas sous le patronage de Saint-Martin, mais de Saint-Pierre, elle nous intéresse tout particulièrement parce que il faut dire aussi une chose, c'est que nos visites, nous les faisons en fonction d'un thème, mais aussi nous essayons, si possible, de visiter des églises que nous n'avons pas eu l'occasion de visiter par le passé. Depuis 15 ou 16 ans, il y a un certain nombre d'églises qui n'ont pas encore été visitées par notre association. Alors, le secteur de Courville avait été un petit peu délaissé jusqu'à présent, et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à voir l'église de la paroisse, si je puis dire, l'église mère, comme on dit de la paroisse, en l'occurrence l'église Saint-Pierre de Courville. Alors, c'est effectivement une église des 15e et 16e siècles qui est, alors pour le coup, non plus une église de village, une petite église rurale, mais une vaste église de ville, composée d'un seul vaisseau, d'ailleurs sans bas-côté, mais très ample, très large, très vaste, avec un grand chevet plat. Et il y a dans cette église un certain nombre d'œuvres d'art encore tout à fait dignes d'intérêt. Alors, on remarquera peut-être plus particulièrement une représentation de la Sainte Trinité qui est tout à fait intéressante, qui doit dater, je pense, du XVIe siècle, et qui est la représentation, dirais-je, qui, par la suite, a été un petit peu contesté par les pères du Concile de Trente. C'est-à-dire qu'en fait, on y représente les trois personnages, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, en général, le Père est représenté sous l'aspect d'un pape, avec une tierce sur la tête, le Fils qui est évidemment sur la croix, crucifié, et puis la colombe du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est là, qui volette. Alors, elle vole au-dessus du Père, ou entre le Père et le Fils. Alors, c'est une représentation qui avait été un petit peu contestée, pas vraiment condamnée, mais les pères du Concile de Trente ont souhaité qu'elle ne se répande pas trop parce qu'elle ouvrait un petit peu la porte à ce qu'on pourrait appeler un certain polythéisme. C'est-à-dire qu'évidemment, trois personnes, c'est pas trois dieux, puisque c'est un dieu en trois personnes, mais n'empêche qu'il y avait là un risque de divergence. Et c'est pour ça que les pères du Concile de Trente ont été un peu sévères à cet égard. Mais là, bon, cette œuvre est vraisemblablement antérieure au Concile de Trente, qui s'est terminé, comme vous le savez, en 1563. Donc, elle représente ces trois personnages. Et alors, c'est amusant parce que ce même type de représentation, nous le retrouverons dans les deux églises suivantes, durant notre parcours. Alors, il y a beaucoup de statues, évidemment, dans cette église, Saint-Sébastien, Sainte-Madeleine, Saint-Nicolas, bien entendu, qui est aussi un saint particulièrement représenté dans nos églises rurales. Et puis, tout honneur, évidemment, à Saint-Pierre, c'est le patron de la part de l'église. Donc, on a un grand tableau qui illustre le rétable du maître-autel. Un grand tableau qui représente, bien entendu, le crucifixion de Saint-Pierre et qui date du XVIIe siècle. Hein. Le tabernacle du maître-autel aussi est tout à fait intéressant. Et nous avons alors là une curiosité aussi peut-être qui a été là reconnue et mise à l'honneur. Enfin, donc, on sait que la plupart de nos églises sont constituées de bancs. Le banc clos. Le banc clos est une chose tout à fait banale, tout à fait répandue dans la plupart de nos églises. Il est paru intéressant à un moment de les préserver, ces bancs clos, parce que, évidemment, c'est pas commode, c'est pas pratique. Ça fait du bruit, effectivement, il y a des portes. Et un certain nombre de nos prêtres avaient l'intention de les supprimer, de remplacer ça par des choses beaucoup plus modernes, des bancs, tout simplement, ou des chaises. Et là, en l'occurrence, à Courville, nous avons un ensemble de bancs clos qui date du XVIIIe siècle et qui a fait l'objet d'une mesure de protection. Et il y a très peu de cas de ce genre. Donc, ils sont maintenant protégés au titre des monuments historiques, ces bancs clos.
Merci, Monsieur Jebert. Pendant cette pause, nous allons vous proposer une illustration musicale tout à fait appropriée à notre propos.
Alors oui, je vous propose d'écouter une hymne des Laudes de la fête de Saint-Martin, puisque nous illustrons Saint-Martin par notre balade du mois de septembre, parce que évidemment nous commémorons son anniversaire. Nous entendrons donc effectivement cette hymne des Laudes de la fête de Saint-Martin interprétée par les moines de Ligugé, qui précisément est l'abbaye qui a été créée, fondée au IVe siècle par Saint-Martin.
Martine paramus solis festum collectes tu fove qui vive redigibulis vis Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire. Nous vous présentons aujourd'hui les 6 églises du secteur de Courville qui feront l'objet de la sortie annuelle de notre association le jeudi 16 septembre. Mon invité est M. Charles Jobert, amateur très éclairé en patrimoine et en particulier du patrimoine religieux. M. Jobert, vous nous avez parlé des églises de Favières, de Fontaine-l'Aiguillon, de Courville. Nous voilà maintenant à Chuines.
Alors Chuines, nous continuons notre série, est une église qui est également placée sous le vocable de Saint-Martin. Comme je vous le disais à l'instant, nous avons fait une seule exception à ce principe, c'est évidemment Saint-Pierre de Courville. Nous retrouvons Saint-Martin dans cette église de Chuines, qui est extrêmement ancienne, puisque nous savons qu'elle a été construite entre 1050 et 1085. Bien entendu, depuis lors, elle a été considérablement modifiée, restaurée, etc., et en particulier, évidemment, au XVIe siècle. Alors, il faut savoir, en fait, que la plupart des églises de notre région ont été tout ou partie reconstruites, restaurées, refaites, agrandies à la fin de la guerre de Cent Ans. Parce que la plupart de nos églises ont beaucoup, évidemment, été dégradées par les troupes anglaises et françaises, d'ailleurs, certainement. Elles ont subi beaucoup, beaucoup d'avatars. Et la paix revenue, il a fallu évidemment s'atteler à des restaurations et à parfois des reconstructions. Donc l'église Saint-Martin de Chuines participe à cette espèce de grande restauration post-guerre de Cent Ans, si je puis dire, qui a été réalisée en gros entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Alors c'est une église typique de la région, bien entendu, qui comporte une voûte en bois de 15 mètres hauteur environ, tout à fait lambrissée en chêne. Et on voit d'ailleurs sur un élément de cette charpente la date de 1760 inscrite, sculptée, taillée, qui indique bien entendu une date correspondant, si ce n'est à une reconstruction, tout au moins à une importante restauration de cette voûte. Alors, ce qui est particulièrement intéressant et spectaculaire, bien entendu, dans cette église de campagne, c'est le maître-autel, qui est tout à fait considérable et tout à fait riche. C'est un maître-autel, je pense, du 17e, 18e. On a un peu de mal, parfois, effectivement, à bien dater ce type d'œuvre. On pense qu'il aurait été construit initialement vers 1650, 1652, mais il a été agrémenté par la suite d'un certain nombre d'autres éléments. Et ce grand retable à colonnes torsadées renferme une toile qui, d'ailleurs, a été faite à partir d'une œuvre de Rubens. Alors c'était fréquent à l'époque, quand on avait de grands auteurs, on avait de belles œuvres, on les copiait tout simplement. Donc c'est une copie d'un tableau de Rubens qui a été offert par la confrérie du Rosaire et qui représente précisément la Vierge Marie qui remet le rosaire à Saint Dominique. C'est un élément très intéressant avec évidemment un tabernacle. Ce tabernacle lui-même constitué d'un certain nombre de petites colonnettes tout à fait torsadées. On y retrouve un grand nombre de statues anciennes, datant toutes du XVIIIe siècle. Une statue de Saint-Sébastien, à nouveau, une statue de Sainte-Eutrope, ce qui est plus rare d'ailleurs, de Saint-Éloi, qui est en stuc, de Saint-Martin, puisqu'évidemment il faut bien quand même que notre saint patron soit représenté dans cette église, et plus rare alors une statue de saint Sanctin qui est en bois polychrome et qui date là encore, on ne sait pas, en 17e ou 18e siècle. Il y a deux rétables latéraux qui viennent encore enrichir notre église, un au nord, un au sud, qui datent toutes les deux du 17e siècle et qui ont comme une iconographie mariale puisqu'ils représentent la Vierge d'un côté et l'éducation de la Vierge de l'autre.
Et pour terminer ce périple, nous entrons dans l'église du Favril.
Alors l'église de Favril, ça sera en quelque sorte le clou de notre visite. Là encore, donc, c'est une église extrêmement modeste. Son existence est mentionnée dès le XIIIe siècle, à peu près 1250. Là encore, elle a été pas mal rénovée. On verra qu'il y a une différence importante d'ailleurs entre la nef et le chœur. Le chœur est beaucoup plus élevé que la nef, ce qui veut dire qu'il a été vraisemblablement construit par agrandissement, là encore, au début du XVIe siècle. Alors, il y a un élément décoratif tout à fait spectaculaire dans cette église qui a fait l'objet d'ailleurs d'une très intéressante rénovation grâce à une souscription réalisée dans le cadre de la Fondation du patrimoine. C'est en fait un tableau, un immense tableau du XVIIe siècle qui représente l'Assomption de la Vierge Marie. Ce tableau qui est inséré dans une espèce de cadre de bois de forme ovale avec des sculptures dorées fort riches en représentant des têtes d'angelots, des palmes et sur les côtés il y a ces espèces de retombées de fruits, de fleurs, de guirlandes. C'est une œuvre extrêmement riche, c'est une œuvre extrêmement luxueuse et qui surprend dans une petite église de campagne. Et évidemment, elle a retrouvé en plus tout son lustre grâce à cette magnifique restauration. On y retrouve également un groupe de la Sainte Trinité. On revient à ce sujet qu'on a évoqué à l'occasion de l'église de Courville. On retrouve là encore une Trinité avec un Dieu le Père tiaré, surmonté d'une colombe et qui porte dans ses mains le Christ, le Fils, donc crucifié. C'est intéressant de faire la comparaison entre ces deux œuvres. Et puis alors, il y a aussi une œuvre tout à fait intéressante et relativement rare, c'est un cénotaphe. Un cénotaphe qui est en pierre et en marbre et qui est un édifice funéraire qui a été édifié là au XVIIe siècle en mémoire d'Étienne Aligre, chancelier de France, mort le 11 décembre 1635, et de son épouse, Élisabeth Le Chapelier, décédée le 4 octobre 1634. Donc, c'est une pièce, je pense, d'un grand intérêt, parce que ces cénotaphes sont relativement rares dans nos églises et ont toujours un lien historique fort, bien entendu, avec les seigneurs du lieu. Et puis alors, évidemment, nous terminerons par le chant des vêpres dans cette église, puisque traditionnellement, nous achevons toujours nos visites promenades par le chant des vêpres. Mais avant cela, nous irons bien entendu visiter une sacristie. Alors, les sacristies sont des lieux généralement peu visités et peu visitables, parce que leur état est souvent un petit peu défectueux, pour ne pas dire autre chose. Mais là, en l'occurrence, nous avons une sacristie exceptionnellement bien entretenue et magnifiquement conservée. Et cette sacristie renferme, bien sûr, comme toute sacristie qui se respecte, un certain nombre d'éléments, et en particulier des objets, le culte, des vêtements liturgiques, des ornements, etc. Alors, il faut signaler effectivement qu'il y a là, dans cette sacristie du Favril, un vêtement liturgique classé, ou tout au moins inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est suffisamment rare pour qu'on le signale. Il s'agit effectivement d'une chape en lampas de soie violette qui date du XVIIIe siècle. Et cette chape, évidemment, nous aurons le plaisir de voir à cours de notre visite et de voir aussi, évidemment, les autres vêtements liturgiques, peut-être moins précieux, moins rares, moins exceptionnels, mais qui ont tout de même de l'intérêt et qui sont, comme je vous le disais, très bien conservés dans un chasublier où les vêtements liturgiques sont bien répartis selon la couleur liturgique, vous savez, les quatre principales couleurs, donc tout ça est très très bien classé. Un certain nombre, effectivement, aussi d'objets du culte comme des calices, des ciboires, ostensoirs ou autres encensoirs. Voilà donc pour le Favril et j'espère vous avoir donné envie de suivre notre visite du mois de septembre.
Notre émission se termine. Merci Monsieur Jobert de nous avoir montré avec toute votre érudition tout ce que nous ne connaissons pas dans nos églises. C'est vous qui serez notre guide dans la plupart des églises que nous venons de citer. Si vous voulez nous rejoindre, contactez directement et rapidement notre association à la Visitation. Amis auditeurs, si vous voulez réécouter cette émission, elle sera disponible à compter de la semaine prochaine sur le site Radio Grand Ciel et très rapidement sur le site de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire. Merci de votre fidélité et à bientôt, chers auditeurs. Et le mois prochain, je recevrai à nouveau M. Charles Jobert et nous parlerons du culte de Saint-Martin.